Donc je reprends sur le chemin de la sainteté, de l'union intime à Dieu. Il est bon de garder conscience que nous avons comme un double combat à mener. D'une part, le combat contre la chair, au sens des passions charnelles désordonnées qui sont conséquences du péché originel aussi, qui sont liées à nos blessures aussi, enfin toutes ces passions malsaines qui nous aliènent et nous empêchent d'aimer en vérité, notamment à cause de l'esprit de possession qui les contamine. Donc ça, c'est ce qui apparaît en premier et qui occupe beaucoup de manuels d'ascétisme. Mais c'est évident que le cœur du combat se joue dans le cœur, dans notre cœur profond, qu'il n'y a pas simplement la question de l'attachement à nos attachements, mais il y a la question d'une lutte contre la racine du mal qui relève de l'orgueil, qui relève du péché originel au sens du péché qui est à l'origine de tous les autres péchés, qui est une volonté d'indépendance, de réalisation de soi par soi. Donc nous en sommes là et je disais que le fait que Saint Jean de la Croix présente les choses de manière chronologique, c'est-à-dire d'abord la purification des sens et ensuite la purification de l'esprit, ne doit pas nous empêcher de penser que Saint Paul, lui, en 2 Corinthiens 7, 1, dit « Purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, achevant de nous sanctifier dans la crainte de Dieu. » Ici, il parle des deux à la fois. C'est un fait. Parole de Dieu prime. En même temps, il fait passer la chair, il dit toute souillure de la chair et de l'esprit, il fait passer la chair et avant l'esprit. Mais on peut comprendre que le combat contre ce qui est à la racine du mal en nous puisse se vivre en même temps que nous combattons contre les passions charnelles. Vous me suivez ? À ce moment-là, comme je vous le disais, la voie d'enfance qui est la forme d'ascèse qui correspond strictement à la purification de l'esprit, c'est comme ça que le père Marie-Eugène de l'enfant Jésus présente la voie d'enfance en disant que c'est l'ascèse spirituelle qui convient à la sixième demeure, c'est-à-dire au temps de purification qui précède juste l'entrée dans la septième demeure. Effectivement, par rapport à ce que nous avons vu, hein, c'est une voie d'enfance que la petite Thérèse découvre après avoir achevé la purification des sens. Mais en même temps, cette voie d'enfance, elle apparaît comme le secret, comme je vous l'ai dit, de la sainteté, selon l'expression de Pie XI, et elle peut être vécue en même temps que l'on mène le combat contre la chair. À ce moment-là, je dis, il faut mener un double combat. D'une part, une lutte sans merci avec des tendances désordonnées qui sont en nous, sans pour autant négliger le danger d'une recherche d'une perfection propre et donc d'une recherche d'acquisition de vertu dans lequel on pourrait se complaire, et donc en travaillant aussi en même temps l'humilité. À ce moment-là, on peut procéder ainsi, par exemple. D'une part, bien profiter de nos chutes pour nous humilier, en attaquant ainsi à la racine du mal, et d'autre part, poser des actes, adgere contra, des actes de renoncement et de pénitence au sens où j'en ai parlé, dans lequel on exprime à Dieu notre bonne volonté et on mène un combat Donc, un combat, je dirais, violent, hein, en mobilisant nos énergies, tout en acceptant de tomber. Il faut à la fois profiter des péchés charnels et mener la lutte contre eux. Il y a un équilibre là qui, quelquefois, n'est pas bien respecté à cause d'une mauvaise compréhension de cette voie d'enfance qui ferait dire que, oui, moi je suis misérable, je suis pécheur, mais plus je suis pécheur, plus je suis proche de Dieu parce qu'il aime les pécheurs. Et puis il les appelle, c'est les pécheurs qui sont humbles, moi je suis dans mon péché, et oui. Mais attention, quand Jésus dit « je ne suis pas venu appeler les justes mais les pécheurs », dans Saint Luc, c'est précisé « je ne suis pas venu appeler les justes mais les pécheurs au repentir ». Ils appellent au repentir. Donc à suivre un chemin de pénitence. On ne peut pas renoncer à avancer sur ce chemin de pénitence. Voilà, ceci dit, c'est vrai que jusqu'à notre mort, nous garderons des, comme je vous l'ai dit, des tendances charnelles désordonnées inscrites dans la chair, mais dans la mesure où il n'y a plus de complicité intérieure avec ces tendances, que ça reste, quand nous tombons dans ces tendances de l'ordre d'un premier mouvement, sans que notre liberté soit engagée, à ce moment-là, bon, c'est juste bon à s'humilier devant Dieu à chaque fois qu'on retombe. Mais il y a des misères qu'il faut accepter, qu'il faudra accepter jusqu'au bout. Ça va dire qu'il ne faut pas faire des efforts, mais c'est sûr qu'on restera marqué par des tendances désordonnées. Mais si on a lutté jusqu'au bout contre elle, il n'y aura plus d'attachement à ces tendances. Voilà. Par rapport à cette double purification, je voudrais vous inviter à méditer. Parole de Saint Jacques en Jacques 4:8. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Purifiez vos mains, pécheurs, sanctifiez vos cœurs, gens à l'âme partagée. Il rajoute, voyez votre misère, prenez le deuil, pleurez. Ça, c'est une invitation au repentir. Mais je prends ce passage-là parce que ici nous avons une distinction qui est en fait traditionnelle entre les mains et le cœur. Purifiez vos mains, pécheurs. Ça, c'est au niveau des actions concrètes, du comportement. Luttez contre vos mauvaises habitudes, vos mauvais comportements, agere contra. Mais ici, vous voyez, le purifier vos mains vient avant de sanctifier vos cœurs. Pourtant, la racine du mal est bien dans le cœur. Mais on peut commencer à lutter contre le comportement, à changer, à lutter, chercher certaines mauvaises habitudes de vie, dans l'espoir, dans l'espérance d'une sanctification du cœur plus profond. Mais c'est un fait que Dieu, dans sa pédagogie, a commencé à apprendre à son peuple à purifier ses mains. Tu ne voleras pas, tu ne mentiras pas. Les actions concrètes, les péchés extérieurs, comme on dit. Les péchés charnels. Et qu'ensuite, il a de plus en plus appelé son peuple aussi à lutter contre les péchés spirituels. Je prends une distinction traditionnelle entre péché charnel et péché spirituel. Ici, j'en viens à la distinction qu'opère le catéchisme de l'Église catholique, numéro 1968, facile à retenir, qui parle de la loi évangélique. Donc cette loi évangélique qui est venue comme l'accomplissement de la loi de Dieu, qui donc a commencé avec le décalogue, et qui trouve son accomplissement avec l'enseignement du Christ et, de manière particulière, le sermon sur la montagne. La loi évangélique accomplit les commandements de la loi. Par les commandements de la loi, il faut comprendre ce qui réforme la main, les actes extérieurs, les actions concrètes, comportements, tels que l'indique le Décalogue. Le serment du Seigneur, loin d'abolir ou de dévaluer les prescriptions morales de la loi ancienne, en dégage les virtualités cachées et en fait surgir de nouvelles exigences. Il en révèle toute la vérité divine et humaine. Alors on peut prendre comme exemple de ça le fameux passage où Dieu, où Jésus dit « Vous avez entendu qu'il a été dit « Tu ne commettras pas d'adultère », et bien moi je vous dis « Quiconque regarde une femme pour la désirer a déjà commis dans son cœur l'adultère avec elle. » Autrement dit, je ne vous demande pas simplement de corriger le comportement extérieur, de ne pas commettre l'acte concret, mais je vous demande de renoncer à toute complicité dans votre cœur avec l'adultère, parce que si vous commencez à la regarder pour la désirer, votre cœur a déjà mordu à l'hameçon du péché. Vous êtes adultère de cœur. Moi, je vous demande d'aller plus loin dans la purification. Donc ici, le Seigneur dégage. Dégage ce que comprenait d'une certaine manière le commandement ancien du Décalogue en en montrant toute l'exigence au niveau d'une purification radicale. Donc ça rejoint ce que je vous ai dit sur le fait de couper le lien, la complicité intérieure avec le péché. Et en fait surgir de nouvelles exigences. On pourrait dire ici la suite, que si ton œil droit est pour toi une occasion de péché, arrache-le et jette-le loin de toi. C'est-à-dire, si tu veux vaincre ta complicité intérieure à l'impureté, à l'adultère, évite jusqu'au bout les occasions de péché. Ne te permet pas de regarder une femme simplement en disant ben, « elle est belle, moi je la regarde parce qu'elle est belle, il n'y a rien de mal ». Non. Si tu sais que tu es faible et que ça va éveiller en toi un désir qui va troubler ton cœur et te réveiller en toi des mauvaises tendances, tu renonces. Vois ce que tu peux te permettre en regardant la télévision. Si tu sais que dans ta faiblesse, ça te trouble, tout ça, tu y renonces. Donc, tu renonces pas simplement à l'acte concret mauvais, ne commettra pas d'adultère, mais tu renonces aussi à tout ce qui peut y conduire. Là, on peut voir une exigence nouvelle. Mais, vous voyez, ici, on reste dans le cadre d'un accomplissement des commandements, mais dans toute leur exigence. De ne pas se contenter d'enlever ce qui dépasse, de purifier l'extérieur. Il n'ajoute pas de préceptes extérieurs nouveaux. C'est un fait, au niveau du purifier la main, tout est dit dans le Décalogue. Jésus n'en rajoute pas. Mais il va, il parle du serment sur la montagne, va jusqu'à réformer la racine des actes, le cœur. Vous voyez ici le cœur présenté comme la racine des actes. Là où, comme dit le catéchisme, tout se noue et se dénoue. On va revenir là-dessus. Là où l'homme choisit entre le pur et l'impur, c'est la question de la cupidité. Là où se forment la foi, l'espérance et la charité, et avec elles les autres vertus. Bref, là où l'homme se décide en profondeur, pour ou contre Dieu. L'Évangile conduit ainsi la loi à sa plénitude par l'imitation de la perfection du Père Céleste. Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait, par le pardon des ennemis, la prière pour les persécuteurs, à l'instar de la générosité divine. Il y a à la fois un chemin de purification donc du cœur qui est à la racine de tout le déploiement de notre vie et en même temps un appel à, mais ça va avec, à aller plus loin dans l'amour, notamment par l'amour des ennemis, sur le chemin de la miséricorde, donc qui va de pair avec cette purification plus profonde du cœur. À ce sujet-là, il me revient à l'esprit que Sainte Thérèse d'Avila, au début du chemin de la perfection, elle présente ce chemin de la perfection selon trois trépieds. Elle parle du détachement, de la pauvreté, l'esprit de pauvreté, détachement. Elle parle de l'humilité et elle parle de la charité fraternelle, de la miséricorde. De fait, dans le serment sur la montagne, on voit un appel au détachement. À travers la question de savoir où ne vous amassez point de trésors sur la terre, mais amassez-vous des trésors dans le ciel. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Nul ne peut servir de maître. Dieu est l'argent. Ces appels à l'esprit de pauvreté, voyez, qui, comme tel, ne sont pas contenus dans le décalogue, parce que ça ne relève pas de la purification de la main, des actes concrets, extérieurs, mais ça relève de la purification du cœur, comme tel, c'est-à-dire c'est l'esprit de possession. La cupidité elle-même, qui est attaquée là, à la racine. En même temps, il y a un appel à l'humilité dans le fait, notamment, vous voyez, de renoncer à se complaire dans nos bonnes actions. Ça relève de la loi évangélique qui réforme le cœur. Ce n'est pas contenu dans le décalogue. Quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite. Ne te glorifie pas de tes bonnes œuvres. Ne t'exalte pas toi-même. Ne te complais pas. Fais-les simplement pour plaire à ton Père Céleste, comme un fils bien-aimé. Ici, c'est l'intention du cœur que Jésus veut purifier. Que ton aumône soit secrète. Saint Jean de la Croix commente en disant qu'elle soit cachée, pas seulement aux autres, mais à toi-même. Ne te regarde pas dans le bien que tu fais. Que ton aumône soit secrète, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Voyez, ici apparaît de nouveaux préceptes, qui sont, on pourrait dire, des préceptes intérieurs, qui visent directement à la purification du cœur. C'est un fait que ces commandements qui relèvent de la réforme du cœur, actuellement, dans l'enseignement moral, pas, on peut dire, beaucoup d'occasions d'être mises en évidence parce que on reste souvent au niveau d'une réflexion sur les 10 commandements, notamment par rapport à des questions d'éthique qui sont évidentes et qui ont besoin d'être approfondies. Ces commandements propres à l'enseignement évangélique, visant donc à la réforme du cœur, à la purification du cœur, par contre, ils apparaissent dans des ouvrages de mystiques, et notamment on les voit apparaître dans la montée du Mont Carmel, où saint Jean de la Croix explique ce que l'on peut faire pour favoriser la purification de l'esprit. Vous voyez, c'est dans ces commandements se sont retrouvés du côté de la spiritualité. En réalité, ici, il s'agit de la théologie mystique, hein, qui nous livre et explicite les grandes lois de cette purification en profondeur du cœur de l'homme. Mais je reviens sur cette idée qu'un drame, c'est d'avoir séparé la purification de la main et la purification du cœur. Et d'enseigner une morale qui, le plus souvent, se contente du décalogue. Alors que le Seigneur est venu porter la loi à sa perfection en indiquant le chemin, en montrant le chemin d'une purification du cœur dont il a payé le prix sur la croix. Je disais en début d'après-midi que la purification du cœur en profondeur relève essentiellement de l'action divine. C'est surtout passif, mais malgré tout, ça demande aussi une ascèse, il y a une participation active. Il y a aussi une purification active de l'esprit chez saint Jean de la Croix, et pas seulement une purification passive. Dans cette purification active de la croix, de l'esprit, c'est précisément là, dans cette partie-là, que saint Jean de la Croix n'arrête pas de citer le serment sur la montagne, qui rejoint tout à fait l'enseignement du catéchisme. Vous voyez, il y a se réapproprier tout ce trésor de la tradition mystique qui est en réalité au cœur de la théologie morale. La théologie mystique fait partie de la théologie morale. Et la théologie morale sans la théologie mystique se transforme encore une fois en moralisme. Il manque l'essentiel. Jésus, dans l'Évangile, nous invite explicitement à rechercher d'abord la purification intérieure du cœur, puisque c'est cela qui est à la racine, c'est la racine de nos actions. Ici, je vous cite à nouveau l'Évangile. Pharisiens aveugles, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, qui purifiez l'extérieur de la coupe et de l'écuelle, quand l'intérieur en est rempli par rapine et intempérance. Pharisiens aveugles, purifie d'abord l'intérieur de la coupe et de l'écuelle, afin que l'extérieur aussi devienne pur. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, qui ressemblez à des sépulcres blanchis, au dehors ils ont belle apparence, mais au-dedans, ils sont pleins d'ossements de mort et de toute pourriture. Vous offrez aux yeux des hommes l'apparence de juste, mais au-dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Rien de pire qu'une morale qui reste au niveau du comportement extérieur et qui, en fait, ne fait que nourrir l'orgueil, sans parvenir, en réalité, à purifier l'homme de ses mauvaises tendances en profondeur. On offre des apparences de juste, on se considère comme quelqu'un de bien, on se complaît dans notre justice propre, et on n'a même pas la pensée qu'en réalité, l'essentiel nous échappe, c'est-à-dire la purification de l'intérieur. Jésus ici enseigne explicitement donc que nous devons toujours rechercher la purification de l'intérieur avant la purification de l'extérieur, ce qui ne nous empêche pas de travailler d'abord l'extérieur, mais si nous travaillons d'abord l'extérieur, c'est en vue de purifier l'intérieur. Purifiez vos mains, sanctifiez vos cœurs, mais toujours en gardant en vue que le plus important, c'est la purification profonde de notre cœur et non pas le fait que nous puissions présenter aux autres de belles apparences. Ici, on est ramené à une vision de l'homme quant à ce qui est la réalité de, je dirais, de sa vie, c'est-à-dire comment Dieu nous a créés, comment il nous a voulu. Eh bien, il nous a voulu comme un arbre. Il n'y a pas de bon arbre qui produise un fruit gâté, ni inversement d'arbre gâté qui produise un bon fruit. Chaque arbre, en effet, se reconnaît à son propre fruit. L'homme bon, du bon trésor de son cœur, tire ce qui est bon. Celui qui est mauvais, le mauvais, de son mauvais fond. Littéralement, le mauvais du mauvais tire ce qui est mauvais. Le mauvais du mauvais tire le mauvais. Car c'est du trop-plein du cœur que parle sa bouche. Ici, nous avons un regard de sagesse sur l'homme qui nous dit la même chose que le livre des Proverbes. Proverbe 4, 23. « Plus que sur toute chose, veille sur ton cœur, car c'est de lui que jaillit la vie. » L'homme est un arbre, il est fait pour porter du fruit. Le fruit, ce sont ses actions. Ses actions dépendent radicalement de son cœur, qui est sa racine. Si la racine est sainte, les branches sont saintes. C'est saint Paul qui parle ainsi dans l'Épître aux Romains, en reprenant donc cette image qui traverse toute l'Écriture, l'image de l'arbre. Je cherche, mais je ne retrouve pas. Nous avons cette image de la racine en Romains 11. Oui, si, Romains 11, 16. Si les prémices sont saintes, toute la pâte aussi. Si la racine est sainte, les branches aussi. Et les fruits aussi avec. Je promenais dans un jardin avec une personne qui connaissait un peu les choses de la campagne, contrairement à moi, qui suis un Parisien endurci. Et je tombe devant un pêcher qui avait des pêches pourries. Et la personne me montre les racines. Elle dit, ces racines sont pourries, le fruit est pourri. Moi, ça reste un peu un mystère pour moi. Racine pourrie, le fruit pourri. Oui, ben l'homme, il est fait comme ça. Il peut toujours essayer de purifier l'extérieur, pour purifier l'extérieur de la coupe. Si l'intérieur, qui est la racine, n'est pas purifié, l'extérieur ne sera jamais vraiment purifié. Alors on peut passer sa vie à se battre pour essayer d'améliorer son comportement en fonction du regard des autres, et d'une certaine image de soi dans laquelle on voudrait se complaire. Et puis ça ne marche pas. En tout cas, ça marche jusqu'à un certain point, c'est-à-dire jusqu'où les pharisiens ont pu aller, mais en réalité, il y a toujours des choses qui dépassent. Donc on s'épuise dans un moralisme dans lequel on ne fait que nourrir notre orgueil, et on passe à côté du vrai combat, tout en imaginant peut-être qu'on vit une vie de bon chrétien. Ouais, évidemment, de ce moralisme-là, on ne peut pas dire que la jeunesse actuelle soit spécialement attiré par ce genre de perfection morale, mais malgré tout, tout en rejetant cette morale bourgeoise, disons formaliste et extérieure, la plupart des personnes actuellement vivent sous le regard des autres. Donc en fait, ils suivent d'autres modes. Ils suivent une mode et un comportement extérieur, et ils vivent selon les apparences, c'est-à-dire sous le regard des autres. Jésus cherche à nous guérir de cette tentation de vivre, de présenter une image de nous-mêmes aux autres et à nous-mêmes. Pas simplement en nous disant que si tu commets une bonne action, que ta main gauche ignore ce que tu fais ta main droite, si c'est bien ça, je ne me trompe pas de main, mais ne craignez pas les hommes ne craignez pas les hommes, mais craignez Dieu qui voit dans le secret. Autrement dit, vivez sous le regard de Dieu qui regarde le cœur. La crainte de Dieu, qui juge de nos actions selon le cœur, et non pas selon les apparences, nous libère de l'hypocrisie, d'une hypocrisie inconsciente. Et on passe notre temps à vouloir ravaler la façade. Et c'est à pure perte. Ça n'a aucune valeur pour Dieu, au contraire, c'est un péché d'orgueil, d'hypocrisie. Et tout ça parce qu'au départ, on se laisse prendre au piège d'abord de se regarder soi, à travers le regard des autres, et de chercher une perfection de nous-mêmes qui est selon les apparences, au lieu de se remettre sous le regard de notre Père du ciel qui voit dans le secret. Saint Paul, dans l'Épître aux Galates, dit « À un moment, je ne serais plus serviteur du Christ si je cherchais encore à plaire aux hommes. » C'est inscrit dans l'Évangile, on ne peut pas à la fois rechercher la gloire du Dieu unique, ce que Jésus dit dans Saint Jean, reproche aux pharisiens, il dit « Comment vous pouvez-vous croire, vous qui recevez votre gloire les uns des autres ?» C'est Jean 5, 44. « Comment pouvez-vous croire, vous qui recevez votre gloire les uns des autres, et ne cherchez pas la gloire qui vient du Dieu unique ?» Vous vous glorifiez les uns à travers les autres. Vous vous présentez les uns aux autres des apparences de juste. Vous cherchez à vous complaire dans cette vaine gloire, au lieu de rechercher la seule vraie gloire, qui est celle que Dieu nous donne, celle que nous recevons de Dieu, qui juge de tout selon l'intérieur. Dans un autre passage, saint Paul a une belle expression. Il dit aussi que quel moment ? Oui. Il parle de « Nous vous donnons seulement occasion de vous glorifier à notre sujet pour que vous puissiez répondre à ceux qui se glorifient de ce qui se voit et non de ce qui est dans le cœur. » 2 Corinthiens 5, 12. « Ceux qui se glorifient de ce qui se voit et non de ce qui est dans le cœur. » Que notre vraie richesse, notre vrai trésor soit dans notre cœur. Qu'il soit dans notre relation d'amour avec notre Père du Ciel et dans tout ce que nous faisons dans le secret de notre cœur pour lui plaire, pour accomplir sa volonté. Que cela plaise ou non aux hommes, ce n'est pas la question. Toute la morale évangélique nous ramène à l'intériorité. Encore une fois, à parier d'abord sur notre vie intérieure, nous dépend la vraie valeur de notre vie, la vraie gloire pour l'éternité. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, c'est chercher d'abord cette vie d'amour intérieur, cette vie cachée en Dieu, cette vie d'obéissance à Dieu dans le secret, et croire que à partir de ce chemin intérieur que nous vivons de conversion de notre cœur, d'une vie tournée vers nous-mêmes à une vie tournée vers Dieu, eh bien, tout le reste se remet dans l'ordre, tout le reste est donné par surcroît. Voilà, ce qui est piégeant, c'est une recherche de perfection au niveau d'un comportement extérieur, visible. Mais par contre, dans l'ordre de la purification du cœur, dans le chemin à la fois de détachement et d'humilité, eh bien, ça ne se voit pas. Et nous ne risquons pas de nous tromper en recherchant d'abord cela. Alors, je voudrais reprendre les choses par rapport à cette image de l'homme qui porte de bons fruits. Les bons fruits, ce sont les actions extérieures, qui sont en fait nécessairement ajustées, belles et bonnes, si le cœur est pur. Jésus nous l'enseigne d'une autre manière quand il dit « si ton œil est simple », ça c'est dans le Sermon sur la montagne encore. L'essentiel de la loi évangélique est dans le Sermon sur la montagne. Mais je vous rappelle l'enseignement du Christ en Matthieu 6, 22. La lampe du corps, c'est l'œil. Si donc ton œil, littéralement, est simple, c'est traduit dans la BJ par saint, S-A-I-N. Non, littéralement en grec, c'est simple. Si ton œil est simple, ton corps tout entier sera lumineux. Et si ton œil est malade, ton corps tout entier sera ténébreux. L'interprétation traditionnelle, en tout cas depuis saint Augustin, c'est que l'œil, ici, c'est l'œil de l'intention, ce que tu vises, ce que tu recherches. Si ton intention est simple, purement et simplement tournée vers Dieu, vers son royaume, cherchant à plaire à ton Père du ciel comme un enfant bien-aimé, si ton intention est simple, ton corps tout entier sera lumineux, tes actions seront belles et bonnes, parce que quand la racine est sainte, les fruits sont saints. Aime et fais ce que tu veux. Aime d'un amour pur, purifie l'intérieur et fais ce que tu veux. Quand c'est l'amour pur qui nous anime et qui nous inspire, il n'y a pas d'inquiétude à avoir par rapport à l'acte extérieur. Il va venir naturellement comme un fruit. Veille sur ton cœur, c'est de là que jaillit la vie. On comprend qu'il puisse y avoir un état de liberté où on n'est plus continuellement à faire attention à sa main. Je veux dire, à ce qu'on va faire au comportement concret. Parce qu'on est suffisamment en contact avec son cœur pour rester devant Dieu dans une attitude, dans un amour filial. Et à partir de là, l'acte extérieur jaillit comme un fruit naturellement, qui fait qu'on a le comportement juste au moment juste, que le corps est lumineux, que ça vient naturellement, à partir d'une vie qui reste dans une vigilance par rapport au cœur. Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. Vigilance par rapport. Veille sur ton cœur, c'est de là que jaillit la vie. Donc restez intériorisé, restez en présence de Dieu, devant lui, rester dans une attitude d'humilité et d'abandon, comme un enfant bien-aimé. Et à ce moment-là, d'une certaine manière, on peut ne plus, comment dire, être libre et laisser sortir ce qui doit sortir.
Comme un véhicule.
Ben, il peut sortir que du bon. Aime et fais ce que tu veux. On voit cette liberté, cette simplicité chez les saints, qui ne sont pas à se demander est-ce que j'ai le droit de faire ça, est-ce que ceci, est-ce que attends, mais si je dis ça, non. Hein. Ça jaillit, et ça jaillit toujours bien, parce que le cœur est vraiment purifié. Mais, tant qu'on n'est pas établi dans un amour filial, tout tourner vers le Père avec l'œil de l'intention, l'œil, c'est-à-dire qu'une intention pure, intention du cœur, cherchant uniquement à plaire à Dieu, mettant notre joie dans l'obéissance à Dieu, tant qu'on n'est pas établi là-dessus, eh bien, on a besoin de garder présent à l'esprit les commandements extérieurs qui sont là comme des repères et des balises et des panneaux routiers, si je puis dire, qui nous avertissent qu'on a danger. Non, pas ça, ça c'est un mensonge, non, t'as pas le droit, ça c'est pas juste, non, je t'ai pas permis, non, quand tu fais pas ça, ah bon, d'accord. Comme ça. Mais Dieu a commencé avec son peuple à dire, non, tu fais pas ça, non, ça c'est interdit, non, jusqu'à dire, attention, maintenant tu travailles l'intérieur et tu vas voir, ensuite, avec cette loi nouvelle, tu seras dans la liberté des enfants de Dieu. Tu pourras agir selon ton cœur, suivre les désirs de ton cœur, parce que ton cœur sera purifié. Tu ne seras pas dans une sorte de contorsion. Il y a un moment, vous voyez, on sent dans la vie des saints qu'ils arrivent, je crois que c'est Benoît XVI qui, à un moment même, parler de l'expression de se laisser aller, c'est-à-dire on est tout simple, on est tout naturel, parce qu'on est tout surnaturel. Parce que le naturel est devenu surnaturel. C'est-à-dire que tout est sous la mouvance d'une charité pure qui nous inspire et qui nous anime. On aimerait pouvoir jouir de cette liberté-là, et il y a beaucoup de personnes qui disent trop vite « aime et fais ce que tu veux ». Ils croient aimer d'un amour véritable, mais en fait, ils ne font que suivre leur passion. Et ils justifient des comportements désordonnés parce que c'était par amour, comme ils disent. Oui, mais c'est comme ça qu'on a pas mal interprété le « aime et fais ce que tu veux », c'est-à-dire du moment que tu aimes. Non, c'est « aime d'un amour pur », purifie l'amour, purifie ton cœur. À ce moment-là, tu peux faire ce que tu veux. Quand la racine est sainte, les branches sont saintes, le fruit est saint. L'homme bon, du bon trésor de son cœur, tire ce qui est bon. Littéralement, en grec, d'ailleurs, c'est « produit ». Il produit, c'est comme un arbre, ça produit, ça vient, ça... Et on voit bien que les saints, ils n'arrêtent pas de produire. Benoît XVI, il produit des discours, il produit. On ne le sent pas crispé dans une réflexion intellectuelle, voyez, dans laquelle il serait là à élaborer un discours bien, bien ficelé. De plus en plus, il improvise. Il a improvisé dès le début de son pontificat. Pourquoi ? Ben parce que de l'homme bon, du bon trésor de son cœur, tire de bonnes choses. Et donc la parole juste vient au moment juste. Ça, c'est l'avantage. On se complique moins, on n'a plus à se compliquer par rapport à l'axe extérieur. Il vient de plus en plus comme un fruit mûr, ajusté. L'Écriture dit que le cœur est la racine des pensées. C'est dans l'Ecclésiastique. Le catéchisme dit que le cœur est la racine des actes concrets. Mais le cœur ne pourrait pas être la racine des actes concrets s'il n'était pas la racine des pensées. Puisque nos actes sont selon nos pensées. Au principe de l'action, il y a la réflexion. C'est les Siracides qui parlent comme ça aussi. On fait ce que l'on perçoit par notre raison comme bien à faire. Je reviendrai là-dessus, mais par rapport au discernement et à la manière dont nous pouvons poser des actes justes. Mais ce que je voudrais insister, c'est qu'il y a un état d'enfance, de simplicité, d'abandon, qui fait que la vie se simplifie énormément. Parce que tout jaillit purement et simplement du cœur. Et que dans l'état, dans la vie mystique, on voit des personnes, enfin, en tout cas la personne que j'ai connue, que je connais, on voit que ses paroles jaillissent spontanément et sont ajustées sans qu'il y ait tout ce travail de réflexion et de calcul auquel le plus souvent nous sommes amenés à faire parce que en réalité les choses ne viennent pas directement du cœur et jaillissent pas spontanément d'un cœur pur. Si vous regardez, puisqu'on m'a donné cité ce cas, la vie de Jean-Paul II, pour moi Jean-Paul II a commencé son pontificat comme un grand contemplatif actif. Il l'a terminé comme un vrai mystique. Entre les deux, il y a eu une terrible épreuve de la maladie qui l'a amené à un détachement par rapport à l'apostolat. Il a dit une fois que le sacrifice le plus grand, c'était le sacrifice de l'apostolat. Et le prêtre, il trouve dans les œuvres qu'il produit une occasion de se réaliser lui-même aussi, évidemment, et de déployer ses capacités au service de Dieu. En soi, évidemment, ce n'est pas une mauvaise chose, mais rien ne vaut l'humilité et l'abandon total. Et il y a un détachement aussi par rapport aux œuvres bonnes, qui fait partie de la purification du cœur. Détachement par rapport aux œuvres pour ne mettre sa joie que dans l'obéissance à Dieu elle-même. Pas pour ce que l'on fait pour lui, mais simplement pour la profondeur de l'obéissance. Ma nourriture, dit Jésus, c'est d'accomplir la volonté de mon Père. Pour mettre sa joie, la joie de notre cœur dans l'obéissance elle-même, et non pas dans la grandeur des œuvres que nous pouvons faire pour lui, il y a besoin d'un détachement par rapport donc, à l'action elle-même. C'est plus fin, c'est plus profond que le détachement par rapport aux créatures. C'est en même temps la vraie guérison par rapport à l'activisme. Et le détachement par rapport aux œuvres bonnes, Saint Jean de la Croix en parle évidemment dans le cas de la purification active de l'esprit. Quand Jésus dit « Le bien que tu fais avec ta main gauche, ta main droite, que ta main gauche l'ignore », alors je me trompe toujours avec les mains. C'est « Alors quand tu fais l'aumône que ta main gauche ignore, oui, ce que fait ta main droite ». Il nous invite donc à ne pas nous complaire et à ne pas mettre notre joie dans ce que nous faisons pour Dieu ou pour les autres. Jésus invite les apôtres dans un même sens. Vous savez, quand les apôtres reviennent à un moment de leur première mission, qu'ils ont fait où ils ont guéri des malades et chassé des démons. Hein. Ils reviennent tout contents de cette mission. Et qu'est-ce que Jésus leur dit à leur retour? Il leur dit, ne réjouissez pas de ce que les démons vous soient soumis, hein, mais réjouissez-vous plutôt de ce que vos noms soient inscrits dans les cieux. Mettez votre cœur dans votre relation d'amour filial avec votre Père du ciel. Recherchez le vrai trésor. Et que ça. Et donc l'abandon filial, le fait de ne rechercher qu'à correspondre au bon plaisir de notre Père du ciel, quoi qu'il nous demande, de n'attacher pas plus d'importance au fait de balayer un couloir que de prêcher devant 1 million de personnes, du moment que c'est le bon plaisir divin. Saint Jean de la Croix dit que la plus petite action posée avec une intention pure vaut mieux que toutes les autres actions posées sans cette même pureté d'intention. La Sainte Vierge a fait plus en faisant de la couture que tous les apôtres avec toutes leurs prédications. Parce que Dieu ne regarde pas l'extérieur mais l'intérieur. Donc le fait de se détacher par rapport aux œuvres, regarde pas que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite. Parce que tu ne sais pas la vraie valeur de tes actions. La vraie valeur de tes actions, c'est ce qu'il y a dans ton cœur. C'est la profondeur de ton obéissance filiale, de ta charité. Et je peux vendre tous mes biens en aumône, si je n'ai pas la charité, ça ne sert de rien. Je peux prêcher l'évangile dans le monde entier, si je n'ai pas la charité, ça ne sert de rien. Donc détache-toi de ça. Détache-toi des œuvres, de ce qui est visible. Mets ton cœur uniquement dans ta relation d'amour filial avec ton Père qui voit dans le secret, qui voit la profondeur de ton obéissance filiale. Mets ta joie dans l'obéissance elle-même. Deviens indifférent au reste. Donc j'ai dit, Jean-Paul II, il a dû mener sûrement un combat profond, une purification profonde par rapport à l'apostolat. Au début de son pontificat, on a regardé son analyse graphologique, il signait Jean-Paul II en appuyant sur Jean, le disciple bien-aimé, modèle du mystique, de celui qui repose sur le cœur de Jésus. Il vaut mieux reposer sur le cœur de Jésus que de courir partout ailleurs, dit saint François de Sales, primat de la vie intérieure. C'était la signature d'un disciple de saint Jean de la Croix. Puis, au fur et à mesure de ses voyages apostoliques, le pape sportif de Dieu appuyait sur Paul, modèle de l'apostolat. Et à la fin de sa vie, il est revenu à Jean. Dans l'obéissance et le renoncement à notre volonté propre, parce qu'une bonne occasion de briser notre attachement aux œuvres, c'est de rester dans l'obéissance à l'autorité légitime, mais l'autorité légitime. C'est-à-dire, moi par exemple, en tant que vicaire, je peux avoir des confrères vicaires qui me donnent des conseils, qui me disent « tu pourrais faire comme ceci ». Enfin, j'imagine un peu parce qu'en réalité, ils ne sont pas tellement comme ça. Mais en tout cas, moi pour moi, le critère, c'est ce que me demande mon curé. Et grâce à l'obéissance dans l'Église, nous avons des occasions de nous détacher de nos œuvres. Travailler à ce détachement par rapport aux œuvres qui est tellement important. Le détachement par rapport aux œuvres chez Jean-Paul II, il a pris la forme d'une chaise roulante. Excusez-moi le raccourci. Hein. Mais impuissance physique. Hein. Et ça a été pour lui l'occasion de parier encore plus sur l'amour lui-même. De croire à l'amour. À la fécondité de l'immolation silencieuse de son âme, de l'offrande silencieuse de sa vie, de son cœur à Dieu. C'est pas simplement, vous voyez, l'acceptation de la souffrance et l'offrande de la souffrance, mais l'acceptation d'une impuissance qui est apparente, qui l'amenait à mettre son espérance dans la pureté de l'amour, l'approfondissement de l'amour, lui qui disait que la souffrance approfondissait l'amour, une occasion de laisser l'amour s'approfondir dans le sens de l'abandon filial. L'abandon filial qui s'est approfondi dans ce renoncement à ses projets apostoliques. Tout ça, c'était pour Dieu. Mais pour Dieu, ce qui est plus important, c'est la profondeur de cet abandon filial et non pas la grandeur des œuvres. Ça m'a rappelé ce qu'a vécu Van Thuan. J'aurais pu amener le livre de Van Thuan qui est sa retraite spirituelle prêchée au Vatican à la demande de Jean-Paul II. Van Thuan, cet évêque vietnamien qui a passé 9 ans, 13 ans en tout, mais 9 ans pratiquement en isolement complet. Donc du jour au lendemain, il a été dépouillé de toute activité apostolique. Lui qui était un jeune évêque très dynamique, était en train de réformer complètement son diocèse. Et dans les premiers mois, ça a été terrible, parce que c'était une incompréhension complète de ce que Dieu, des chemins de Dieu pour lui. Jusqu'à ce que, dans le secret de son cœur, Dieu lui dise, tu vois, tout ça, toutes tes œuvres, c'est très bien, mais d'autres pourront le faire encore mieux que toi. Tout ça, c'est très bien, mais ce n'est pas Dieu. Et, autrement dit, cherche-moi. Cherche uniquement à vivre ta relation d'amour avec moi, ta relation d'amour filial. Le petit enfant avec son père, il n'est pas préoccupé de faire des choses. Il est préoccupé uniquement de garder sa main dans la main de son père. Et d'obéir à son père, quoi que son père lui demande, ce n'est pas son problème, puisqu'il n'a aucun projet, tout petit. Il met sa joie simplement dans le fait d'être bien en phase avec son père, de plaire à son père, c'est tout. Ça, c'est l'intention pure. Et donc, Van Thuan a reçu ça dans son cœur. Tout ça, ce n'est pas Dieu. Autrement dit, cherche-moi, moi. Mets ta joie dans cette relation d'amour avec moi, rien ne t'empêche de la vivre en prison. Au contraire, elle s'approfondit dans la souffrance, dans l'épreuve. Et Van Thuan a témoigné que ça avait complètement changé sa manière de vivre. À partir de là, il a senti une force nouvelle, il a eu un rayonnement nouveau. D'ailleurs, au début, les communistes changeait de gardien assez vite parce qu'il voyait que les gardiens commençaient à se convertir à son contact. À la fin, il gardait les mêmes gardiens pour qu'il n'y en ait que deux, que quelques-uns convertis, quoi. Parce qu'il y avait un rayonnement fou. Et son procès de canonisation est en cours. Mais à Rome, on l'appelait le simple, celui qui était simple. Simple avec tout le monde. Établi dans un état d'humilité, marqué le cardinal Ratzinger, lui on l'appelait le saint, il santo. Mais Van Thuan, c'était le simple, un cœur simple. Et il avait payé le prix fort pour préférer Dieu aux œuvres de Dieu, pour reprendre l'expression de sainte Thérèse d'Avila. Préférer Dieu aux œuvres de Dieu. Ça a été 9 ans d'incarcération. Et Jean-Paul II, ça a été la chaise roulante. Mais vous voyez, avec la fin du pontificat de Jean-Paul II, que la pureté de son amour et le fait qu'il se soit enfoncé dans une vraie vie mystique, dans laquelle plus rien ne compte d'autre que la relation d'amour au Père, a dégagé au moment de sa mort un parfum très pur, le parfum de l'amour pur, qui a attiré quantité d'âmes, qui a eu plus d'efficacité que tous ses discours. Comme la petite Thérèse. Donc aussi, voyez l'image de l'arbre qui a sa racine qui doit porter du fruit et que le travail de fond, c'est le travail à la racine. Travailler à la racine, qui est donc un travail sur notre cœur, rechercher par-dessus tout, purifier l'intérieur de la coupe. Ce travail, il faut le voir sur le long terme. Quelqu'un comme Pierre Goursa, il a eu une vie simple de fidélité à l'adoration, à travers une vie professionnelle qu'il a menée honnêtement, mais sans voir beaucoup de fruits. Et vous savez que dans les années 60, avec tous les bouleversements et la puissance des idéologies dominantes à cette époque, Pierre Goursa avait finalement démissionné de son poste. Il était secrétaire pour la... Il était journaliste dans... Vous savez mieux que moi parce que... Dans... Oui, pour le cinéma. Et il a vu que la situation était vraiment humainement désespérée et il a lâché son... Il a lâché sa profession pour se retirer un peu et il a hébergé sur une péniche des personnes droguées. Bon, mais il s'est retrouvé dans un état de grande impuissance et isolement qui a dû correspondre pour lui à une nouvelle étape de purification et d'abandon à Dieu. Et c'est dans ces années-là qu'il a fait ensuite l'expérience du renouveau, que le Seigneur l'a appelé à fonder une communauté. Mais je sais que dans sa famille, il est considéré un peu comme le raté, parce qu'il n'était pas prêtre, il n'était pas religieux. Et bon, il avait mené une vie professionnelle honnête, mais il n'y avait pas de quoi. Bon, mais en réalité, toute la réussite de sa vie a consisté dans le fait que, dans son travail, tout ça, le cap qu'il a gardé, c'était de rester proche du cœur de Jésus dans l'adoration eucharistique. Il a creusé. On peut dire qu'il a parié sur cette vie intérieure. Et puis il y a eu un moment où ça a été mûr, où il y a eu un fruit extérieur. Mais le vrai fruit de sa vie, en fait visible, c'était la communauté de l'Emmanuel. Mais il n'est apparu qu'à l'âge de 55 ans. Ce que je veux dire, c'est que dans une vie, vous voyez, ça rejoint ce que je vous disais par rapport au fait que le Seigneur peut nous demander d'être des serviteurs et ensuite nous faire rentrer dans son amitié. Dans une vie, il faut penser qu'il peut y avoir des activités qu'on fait qui ne sont pas encore la mission au sens du fruit mûr qu'on aura à produire pour l'Église, mais qui sont de l'ordre plutôt d'un terrain d'exercice à la sanctification. Que la sagesse est de vivre d'abord notre apostolat, nos activités extérieures, en cherchant à en profiter d'abord pour purifier notre cœur. Plutôt que de vouloir de rechercher un fruit dont d'ailleurs on ne sait pas quelle forme il doit prendre. On ne sait pas le fruit mûr qu'on portera à la fin de notre vie. On ne sait plus quel saint dit qu'on découvrirait sa vocation à la fin de sa vie. Enfin, en fait, au ciel, on comprendra le fruit qu'on a porté. La petite Thérèse, elle a écrit les manuscrits, le manuscrit du Nab, qui a été le livre le plus lu, le plus traduit au monde après la Bible, qui a eu un tel rayonnement. Elle l'a écrit par obéissance, dans un état d'abandon total, et c'est venu quelques mois avant sa mort, comme ça, comme un fruit extérieur. Mais c'était en même temps le fruit mûr de toute une vie de fidélité, voyez, à un chemin de sanctification et d'abandon. Mais surtout, elle continue à porter du fruit par-delà la mort en récoltant ce qu'elle a semé, sur terre. Au niveau de la fécondité du fruit visible, ça se poursuit après la mort. Mais ce qui dépend le plus de nous, c'est de travailler à la sanctification profonde de notre cœur et de nos mains, de laisser à Dieu la question du fruit. C'est pas notre affaire. Cherche d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Puis le reste sera donné par surcroît. Le fruit, la mission, ce que tu feras pour Dieu et pour les autres, c'est du surcroît au niveau de l'action concrète. Mais toi, parie tout sur l'amour. Petite Thérèse, à la fin de sa vie, elle dit « J'ai tout parié sur l'amour. Je ne sais pas si je suis riche ou pauvre. » Parce qu'elle disait « Si j'avais parié sur les œuvres, je serais désespéré. » Parce qu'il n'y avait pas grand-chose à voir. Et vous savez que quand Pie XI a voulu la canoniser, tous les cardinaux étaient opposés. Parce qu'ils considéraient que sa vie était, comme il disait, trop insignifiante. Pas d'œuvre visible assez belle pour justifier une canonisation. Ils oubliaient le principe de Saint Jean de la Croix, que la moindre action posée avec une pureté d'intention est plus précieuse pour l'Église que toutes les autres actions sans la même pureté d'intention. Cette parole de Saint Jean de la Croix, la petite Thérèse l'avait notée dans ses cahiers, elle l'oubliait pas. Elle a tout parié sur le cœur, sur la vie intérieure. Et sur la fécondité de cette vie intérieure, même par-delà la mort. Voyez, le primat de la vie intérieure est extrêmement libérant. Il permet de ne pas rester comme focalisé sur tel ou tel type d'apostolat, sur tel ou tel type de mission. De penser que si on avait telle responsabilité, on pourrait faire tellement plus de choses pour Dieu. En réalité, aucune circonstance, rien ne nous empêche de travailler pour Dieu, puisque tout dépend d'abord de ce travail sur notre cœur. Et aucune circonstance ne nous empêchera jamais de travailler sur notre cœur. Au contraire, puisque Dieu te fait tout concourir à notre sanctification. Donc, enlève d'abord la poutre qui est dans ton œil. Tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil d'autrui. Travaille d'abord sur toi. Travaille sur ton cœur. Et laisse le fruit venir. La lumière te sera donnée, la force. Les choses viendront en leur temps. Alors, vous voyez comment ça peut être catastrophique dans l'Église quand chacun tient à ses œuvres, à son apostolat, pour Dieu, parce que c'est pour Dieu, évidemment, pour les autres, et dans son attachement aux œuvres, à ce qui se voit, à réalisation visible, on vient à faire des petites entorses, soit à la justice, soit à la charité, tout ça pour la réalisation de l'œuvre. Et se retrouve finalement dans la situation que Jésus présente à la fin de l'évangile du sermon sur la montagne, où il dit, rappelez-vous, « Beaucoup me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom que nous avons chassé les démons, en ton nom que nous avons fait bien des miracles ? Alors je leur dirai en face, jamais je ne vous ai connus, écartez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Ça fait froid dans le dos. Écoutez en parallèle, Benoît XVI. Nous courons, nous aussi, un risque. Il parle aux évêques suisses. On peut faire beaucoup de choses, tant de choses, dans le domaine ecclésial, tout pour Dieu, et ce faisant, se tenir totalement à l'écart sans jamais rencontrer Dieu. L'attachement aux œuvres, mettre son cœur dans les œuvres, être tendu dans un vouloir faire pour Dieu, prendre ça pour l'amour, et rater complètement sa vie. Le drame des pharisiens se continue dans l'Église. Cette tentation, donc, de mettre son cœur dans les œuvres au lieu de le mettre dans notre relation d'amour filial avec Dieu, donc, au lieu de rechercher la vraie finalité de notre vie, la vraie vie, cette tentation, elle a toujours existé, mais elle prend des proportions plus, il me semble, plus importantes maintenant, du fait, enfin, je me permets de dire ça, du fait de cette maladie qui est l'activisme et qui, depuis longtemps, contamine la vie de l'Église d'une manière plus forte qu'à d'autres époques, me semble-t-il. Je dis ça, c'est parce qu'on trouve des documents du magistère, voyez, à la fin du XIXe siècle, s'inquiétant du fait que l'on magnifie l'action et les vertus, ce qu'on appelait à l'époque les vertus actives, c'est-à-dire les vertus qui nous permettent d'agir, au détriment de ce qu'on appelait à l'époque les vertus passives, humilité, douceur, patience. C'est Léon XIII qui parle ainsi, disant « Attention, n'oublions pas l'ascèse et la purification du cœur, et faites attention, vous parlez beaucoup de l'action. » Pie XII, lui, a parlé carrément d'une hérésie de l'action, dans le fait d'une exaltation trop grande de l'action extérieure. Il a rappelé les prêtres en leur disant « Faites attention, vous êtes très généreux et tout ça, mais gardez le cap de la sainteté, c'est d'abord la sainteté dont l'Église a besoin. » Et quant à Jean-Paul II, il a terminé son pontificat, enfin, il a terminé, il a écrit une lettre pour permettre à l'Église de rentrer dans le troisième millénaire, qui est un peu son testament pastoral, qui est Millennio Inente, Novo Millennio Inente, je ne sais pas si je vais le retrouver là, mais dans lequel il dénonce aussi l'activisme en disant que au fond, nous tombons dans le risque d'un faire pour le faire, et que si nous oublions ce principe essentiel de la vie chrétienne, que le principe du primat de la vie intérieure, du primat de l'union à Dieu, eh bien, nous allons au-devant de beaucoup de désillusions, de déceptions. Et c'est dans ce contexte-là qu'il a lancé son Docinaltum, adressé à l'Église tout entière, en disant il faut repartir du Christ, de la contemplation du Christ, de l'union au Christ. Sans cela, il n'y aura pas de nouvelle évangélisation en profondeur. On risque de tout faire pour Dieu tout en se tenant totalement à l'écart de Dieu. Mais comment on pourrait attirer les âmes à Dieu si nous-mêmes ne nous enfonçons pas dans une relation d'amour profonde avec lui? Si à notre contact, on ne ressent pas le parfum de l'amour pur? Voyez, dans l'Église, il n'y a pas que le problème d'une... je dirais, de communautés qui soient affectivo-bécotantes, une purification de l'affectivité, mais il y a aussi le problème de la purification au niveau des œuvres, au niveau de cet esprit d'activisme. Et Jean-Paul II a terminé son pontificat sur cette note-là. Il a pu, je vous lirai peut-être un autre moment, mais enfin, il y a un moment où il dit solennellement permettez-moi de vous rappeler la parole du Christ, allez vers la profondeur, dukinaltum, parce que nous avons trop misé sur des programmations, sur des projets pastoraux, en oubliant la parole de Jésus, en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Ceux qui demeurent en moi et en qui je demeure, celui-là porte du fruit, beaucoup de fruits. En dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si je n'ai pas la charité, je peux faire quantité de choses, ça ne sert de rien. Donc, il a pu nous rappeler avec force le primat de la vie intérieure, parce que lui-même s'y est enfoncé. Et Pierre Goursat, il a rendu le plus grand service à la communauté en acceptant vraiment et sincèrement de se dessaisir du gouvernement de la communauté. Alors que tant d'autres fondateurs ont un mal terrible à lâcher le pouvoir faire des choses pour Dieu, et à se retrouver dans une situation d'inutilité apparente. Pierre Goursat, les dernières années, c'était un Pierre Goursat inutile, comme la Bernadette qui disait qu'elle se sentait comme un balai qu'on aurait mis dans un placard. Mais en s'enfonçant dans une vie toute cachée en Dieu, toute abandonnée, toute filiale, dans le détachement par rapport aux œuvres, il a donné à la communauté, il a indiqué le chemin d'une purification plus profonde. On retrouve ça dans la vie de beaucoup de saints qui ont fondé quelque chose et qui ensuite ont été dessaisis de ce qu'ils avaient fondé. Pour les amener à aller plus loin, voyez, dans cette vie cachée en Dieu avec Jésus. Plus loin dans la pureté de l'intention. Ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous soient soumis, des miracles que vous faites, mais réjouissez-vous de ce que vos noms soient inscrits dans les cieux. Pour terminer un peu sous cet angle-là, voyez, je pense que le Seigneur est en train de purifier son Église en profondeur, pas simplement les communautés anciennes, mais les communautés nouvelles aussi, et qu'il nous faut garder ça vraiment comme priorité, en même temps que il y a une urgence de la mission, c'est évident, qu'on doit annoncer le Christ. Mais la sagesse ici consisterait à vivre nos activités apostoliques comme étant, encore une fois, d'abord la matière d'un exercice de conversion personnelle. C'est-à-dire, enlève d'abord la poutre qui est dans ton œil, et tu verras clair pour enlever la paille dans l'œil d'autrui. On peut le vivre dans l'action elle-même, c'est-à-dire c'est pas simplement l'idée qu'on va d'abord consacrer des années dans une vie monastique pour essayer de se purifier et qu'ensuite on va parler, parce que le fruit sera mûr, mais c'est l'idée que dans l'action elle-même, on peut garder au fond de notre cœur cette conscience du primat de la vie intérieure, se convertir pour convertir les autres, et de vivre, je dirais, l'acte extérieur, d'abord à l'intérieur de cette logique-là. Je prends un exemple simple. Quand on va au-devant de quelqu'un, le Seigneur met sur notre route, et qu'on sent, on peut sentir qu'on pourrait parler avec la personne en ayant au fond de notre cœur, on a un désir d'évangéliser. Vraiment. Il y a deux solutions. Ou alors, on est dans un attachement à notre désir d'évangéliser. Et à ce moment-là, on risque de parler de nous-mêmes, mu par notre volonté propre, avec un secret attachement, parce qu'on veut évangéliser. C'est encore notre œuvre à nous, en réalité. On parle de nous-mêmes. Ou alors, on rentre dans cette logique. Enlève d'abord la poudre qui est dans ton œil et tu verras clair. À ce moment-là, j'attire votre attention sur le fait que le Seigneur nous donne, enfin l'Écriture nous invite dans une phronésis, une sagesse, un regard de sagesse sur la manière d'agir, à profiter d'un exercice simple, mais qui peut être très sanctifiant, et qui est l'écoute. Soyez prompt à écouter, lent à parler, dit Saint Jacques. Dans l'évangélisation, dans l'apostolat, si je rate la première marche, qu'elle écoute, si en me laissant guider par mon vouloir faire des choses pour Dieu, pour les autres, dans un attachement secret à mon apostolat, sans voir que, en réalité, ici glisse une certaine recherche de moi-même. Qu'est-ce que j'en fais pour Dieu? Je suis vraiment très fatigué. J'en fais tellement que je suis fatigué. C'est fou comme je me donne. Bon. En fait, on va rater l'exercice de sanctification le plus simple et le plus précieux, qui est l'écoute. Parce que écouter, c'est lâcher prise. C'est lâcher les rênes. C'est rentrer dans une patience, une passivité qui nous laisse le temps de nous abandonner à Dieu, de lâcher un discours tout fait, de lâcher nos pensées propres, prendre le temps d'aimer la personne, de l'accueillir dans notre cœur. Là, il y a tout un travail qui se fait dans l'écoute. On sait bien que l'écoute nous coûte plus, l'écoute nous coûte plus que la parole. Écoute, c'est un exercice de patience. Soyez prompt à écouter. Commence par écouter, commence par ouvrir ton cœur à travers l'écoute à l'autre. Pour entrer dans un véritable amour de charité, aime et fais ce que tu veux. C'est-à-dire ensuite la parole viendra, mais elle sera inspirée par l'amour, pas par ta volonté propre et par tes calculs. Voyez, c'est dans ce sens-là, je pense qu'actuellement il y a un équilibre à trouver parce que il y a une urgence de la mission, mais il y a une urgence encore plus grande à ce que l'Église se laisse la purifier elle-même. Comme dit Saint Pierre, le jugement commence par la maison de Dieu. Et on a un pape qui fait vraiment actuellement un travail extraordinaire pour purifier, laisser Jésus à travers lui, purifier son Église. Bien. Et en même temps, il y a de fait plein de choses à faire. Il faut qu'on soit à la fois des actifs et des hommes intérieurs qui, dans l'action même, trouvent l'occasion de travailler d'abord sur eux-mêmes. Ça, c'est l'idéal. Se sanctifier dans l'action, soi-même, en vue de pouvoir vraiment sanctifier les autres par notre action. Travailler à la racine, toujours. Lâcher prise quant à l'action concrète. Laisser venir les choses. Je crois que j'en reparlerai demain, mais vous voyez, souvent, on dit des paroles, on pose des actes en fonction d'un vouloir faire avec des calculs, ce serait bien d'eux, mais sans être vraiment inspiré de l'intérieur. Et en fait, on gagnerait en faire moins et en dire moins, mais laisser les choses venir au moment où elles doivent venir, c'est-à-dire à partir d'une vie intérieure. Ça simplifie la vie intérieure. Là où il y en a d'autres qui peinent pendant des heures à essayer de comprendre, à chercher ce qu'il peut pas, tout ça, celui qui est vraiment intériorisé, qui se laisse mener par l'Esprit Saint, par l'amour, en fait, par la charité, il a cette clairvoyance du cœur. Purifie, enlève la poutre et tu verras clair. Je reviendrai sur cette question du discernement. C'est évident que quand on est au contact de quelqu'un qui a une vie mystique, qui a une vie intérieure, on sent cette simplicité et cette rectitude de jugement qui est donnée, en fait, comme un don de l'Esprit Saint. On parle d'un charisme de discernement. Je ne pense pas que le discernement relève à proprement parler d'un charisme. Il y a un discernement qui est le fruit mûr d'une purification du cœur qui fait qu'on voit l'autre, les choses dans la lumière de Dieu. Et le don de conseil qui intervient, qui est un don de l'Esprit Saint, qui est une disposition permanente, qui fait qu'on perçoit le bon plaisir divin et qu'on est accordé au bon plaisir divin. Donc le discernement spirituel, il est très simplifié. Parce que ça vient naturellement, on voit clair. Père Thomas Philippe, moi je l'ai donc connu en 86, j'ai fait une retraite avec lui, parce que j'avais entendu dire par des frères de Saint-Jean qu'il y avait un saint à Trolibreuil. Le saint en question, c'était le Père Thomas, le frère aîné de Père Marie-Dominique Philippe. À l'époque, j'étais jeune prêtre à Tibériade et j'étais emmêlé avec mes bonnes intentions et mon vouloir faire pour les autres. J'étais emmêlé dans une problématique dans laquelle j'arrivais pas à me sortir. Il y avait dans le centre quelqu'un qui mettait la zizanie. Et moi, je voulais être miséricordieux. Et je voulais pas qu'on le vide du centre en disant qu'il fallait pas le, il fallait garder confiance, il fallait pas être dans la méfiance, il fallait garder confiance en la. Parce qu'il pouvait y avoir de bon au fond de son cœur, au-delà des apparences. En fait, j'y voyais rien et j'étais aveuglé. En fait, cet homme, je l'ai su qu'après coup, avait fait un pacte avec le démon. Et il était vraiment... Je ne sais pas si tu l'as connu, Eliane. Mais il était vraiment perverti. Il y a des gens qui font des pactes avec le démon sans être pervertis. Mais lui, il était vraiment... Et il y a eu une tension avec la responsable du centre qui voulait le mettre à la porte et moi qui disais en tant qu'aumônier, mais non, il faut être dans la compassion et tout ça. La bonne intention, mais pas de discernement. Vouloir faire pour Dieu. Je vais voir le Père Thomas. Le Père Thomas, il n'éprouvait pas le besoin de dire bonjour, tout ça. Il était immobile dans son canapé, là. Et puis... Par sa paix, et par son ouverture et son accueil, il invitait à rentrer dans cette paix, et donc dans ce silence en fait. Et on était bien avec lui en silence. Et moi en fait, je me suis assis à côté de lui, et puis je restais là, mais en fait au fond de mon cœur j'étais agité avec cette question. Il faut lui laisser une chance. Il ne faut pas être dans la méfiance, il faut faire confiance. Père Thomas, j'ai rien dit. Père Thomas a ouvert la bouche, premier mot qu'il a prononcé, première parole, pour dire simplement, la réserve, ce n'est pas la méfiance. J'avais rien dit. J'avais le mot que j'avais besoin, réserve. Jésus dit, méfiez-vous des hommes. Et moi, j'étais dans un vouloir faire confiance qui venait de moi-même et qui était à un niveau humain. Et puis ensuite, il m'a dit, sans que j'aie rien dit, il y a des êtres qui sont pervertis. J'avais ma réponse, j'avais rien dit. Ça, vous voyez à l'œuvre là les dons de l'Esprit Saint. C'est-à-dire que saint Thomas d'Aquin explique les dons de l'Esprit Saint, dons de sagesse, de conseil, de force, de science, de crainte, de piété, enfin d'intelligence, tout ça, sont des prolongements de la charité. Quand la charité est brûlante, qu'elle est pure, qu'elle est activée au fond de notre cœur, c'est vraiment la charité qui est le moteur intérieur de notre vie, elle se prolonge dans les dons de l'Esprit Saint pour prendre possession de nos facultés. Mais là, on n'est plus au niveau des charismes, qui sont des grâces particulières, ponctuelles. On est au niveau d'un mode d'agir qui est transformé de l'intérieur par la charité divine, qui à la fois donne la force et l'inspiration. Et à ce moment-là, on vit pleinement ce que Jésus disait à propos de l'arbre, c'est-à-dire l'homme du bon cœur, du bon trésor de son cœur, tire ce qui est bon. Ça vient comme un fruit mûr. Et ça sort. Mais il faut être dans une passivité intérieure, dans un accueil et une docilité à l'Esprit Saint, totale, pour arriver à dire à quelqu'un qui n'a rien dit, tout de go, la réserve, ce n'est pas la méfiance. Ce n'est pas « Bonjour Louis, comment tu vas ?» Non, c'est la réserve, ce n'est pas la méfiance. Ça sort et on laisse sortir. Paroles qui viennent directement du cœur, dans de l'Esprit Saint. Et en une parole, il a fait plus qu'en des heures d'explication ou de discussion. Non, je vous dis ça, c'est parce que ça vaut la peine de parier sur l'intérieur, sur une vraie vie intérieure, d'union au Christ. On récolte des fruits après. Il vaut mieux travailler sur soi et rester fidèle à ce travail de sanctification, même si on ne voit pas de fruits visibles, rester fidèle à ça et porter un fruit mûr à la fin de sa vie, que de faire le contraire, de vouloir tout de suite porter du fruit. Un arbre, dans les premières années, il ne porte pas de fruit. Faire le sacrifice de ne pas voir les fruits, disait la petite Thérèse. Le père Thomas, il a payé le prix fort pour ça. Il a été privé d'apostolat pendant une dizaine d'années, suite à un jugement. Il était un des théologiens les plus brillants dans les années 50, 40 et 50. C'est à lui que Pie XII a demandé de présenter le dogme de l'Immaculée, de l'Assomption de Marie. C'est lui qui a fait la conférence inaugurale présentative du dogme. C'était le plus grand théologien marial, donc des années 40-50. Père Thomas Philippe était considéré comme le génie théologique des dominicains. Bon, il y a eu un procès contre lui, je passe sur ces circonstances, mais il a vécu, un peu comme un Van Twan, une dizaine d'années sans apostolat. Il a frottelé l'hôpital psychiatrique, on ne savait pas quoi faire de lui. Il a vécu une nuit terrible, probablement la nuit de l'esprit. Et il a échoué, mais vraiment échoué, comme aumônier d'une petite clinique psychiatrique, grâce à l'ami d'un ami qui était responsable de cette clinique psychiatrique. C'est à partir de là qu'est née l'Arche. C'est lui qui a appelé Jean Vanier. Le plus grand théologien des années 40, se retrouvant à prêcher devant des handicapés mentaux. Ça, c'est Dieu. On pourrait dire, Dieu, il fait quoi là? Il n'exploite pas ses dons? Il avait des capacités exceptionnelles? Non. Pureté du cœur vaut mieux que tout le reste. Sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé, cœur broyé. Là, il a été brisé, le père Thomas. Mais de là est né l'Arche, un fruit mûr, Il avait 60 ans. Même plus, 65 ans. Prix à payer. Grain de blé qui tombe en terre, qui meurt, qui porte des fruits. Oui, mais le père Thomas, il a dit que dans cette nuit, il pensait à certains moments devenir fou. Parce que c'est un beau désert quand on est au bout du tunnel. Et tant qu'on est dans le tunnel, le chemin de Dieu peuvent prendre des formes tellement humainement absurdes. Lui qui prêchait, qui passait son temps à prêcher des retraites, qui était considéré par ses étudiants comme déjà un grand saint, réduit à l'impuissance, se retrouvant à errer à droite, à gauche, de couvent en couvent, essayant de survivre comme ça, et réduit à un état d'impuissance suite à un jugement hâtif et qui n'a d'ailleurs jamais été remis en cause. Mais c'est après qu'on voit le fruit. Mais vous voyez, ces passages par le désert et tout ça sont des épreuves dans lesquelles. Je dirais, il n'y a plus qu'une seule chose qui puisse nous permettre de ne pas devenir fou, c'est de rechercher d'abord l'amitié avec Dieu, parce que ça, personne ne pourra nous l'enlever. Si on met notre cœur dans ce trésor-là, qui est intérieur, quelles que soient les circonstances, on a toujours une raison de vivre. Mais si on met son cœur dans l'apostolat, si l'apostolat craque, ben les prêtres, ils craquent. Il y a des prêtres qui arrêtent le ministère parce qu'ils ont craqué dans leur apostolat. J'ai connu comme ça... Non, c'est l'heure. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen.